Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue dans votre magazine Droits et Devoirs qui se penche aujourd'hui sur la répression des phénomènes Kuluna ou banditisme, criminalité urbaine ou gangstérisme en droit congolais. L'opinion se souvient encore qu'au lancement de l'opération Coup de poing ou l'ICOFI pour traquer les Kuluna par la police nationale congolaise au mois de novembre 2014 à Kinshasa, la joie a été immense pour les Kinois qui ont trouvé un ouf de soulagement face aux jeunes brigands ou malfrats qui s'aimaient et sèment encore aujourd'hui la terreur et la désolation dans toute impunité. Après cette ouf de soulagement, la désolation reprend, le phénomène refait surface. Les défenseurs des droits de l'homme, la population et la police accusent la justice de ne pas faire assez contre ces gangsters. Ils sont présentés devant les tribunaux puis relâchés quelques jours après et récidivent. C'est un cycle infernal. La police est traitée d'impuissance, renvoie la balle à la justice. Les défenseurs des droits de l'homme relèvent l'impunité et l'inefficacité de l'appareil judiciaire. La justice à son tour se défend. D'où est venu le phénomène Kuluna? Comment est-il réprimé en droit congolais? Pourquoi on n'en finit toujours pas avec les Kuluna? Quelle peine encourent-ils lorsqu'ils sont déférés devant la justice et reconnus coupables? Droits et devoirs décortique cette problématique avec un des professionnels de la loi, en l'occurrence le premier président de la cour d'appel de la Gombe, Jean-Marie Massoudin Pia, et les défenseurs des droits de l'homme, notamment Georges Kapiamba, avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ainsi que Robert Ilunga, président de Les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, l'ONG qui a publié plusieurs rapports sur l'opération coup de poing de la police contre ces phénomènes. Ce magazine est coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Jeff Ngoyi vous le présente. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Droits et Devoirs. Nous parlons de la répression du phénomène Kuluna en droit congolais. Et nous recevons le président de Les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, Robert Ilunga, nous rafraîchit ici la mémoire en décrivant le mode opératoire des Kuluna.
Le phénomène Kuluna n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2005 avec le phénomène d'abord Ekiri. Ça s'appelait Ekiri Madesu, Ekiri ceci, dans chaque quartier. Et ce phénomène-là a été encouragé par certains politiciens, de l'opposition comme de la majorité. Et ils utilisaient ces jeunes-là comme des leurs gardes des corps. Et parfois, quand ces jeunes commettaient des infractions, parce que ce qu'ils font là, ce sont des infractions des droits communs. Là, ce n'est pas encore une violation des droits de l'homme. La loi ne permet à personne. Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes? Si je peux les rappeler, la population est en train de les vivre tous les jours. Ces jeunes-là se comportent en brigands. Ils privent les gens de leur circulation. Parfois, c'était en 2005, un jeune du quartier Matongé pour entrer à Kaouka, il faut montrer sa carte d'électeur. Il mettait même une barrière avec des chaises de part et d'autre. Il surveillait les gens qui entrent dans des quartiers qui sont dans les quartiers. Quand même, on les arrêtait par la police. On les amène au parquet. Soit ils sont relâchés à partir des parquets, soit ils sont envoyés en prison rapidement. Si on trouve que ces jeunes-là ont une famille, je vais vous dévoiler quand même certains secrets dans ce que nous constatons par rapport à la défaillance de la justice. C'est l'impunité.
Remontons encore dans l'histoire pour dire que le phénomène Kuluna est l'émanation des groupes de jeunes constitués dans différents quartiers de la ville de Kinshasa sous le label Ekiri. Ces Ekiri connaissent plusieurs dénominations, notamment Armée Rouge, les Salopards, les Irakiens, Chicago, Base Rwanda, les Zoulous, Mai Mai, Mbeli Mbeli, Bana 7e, les Antidrogues, Bic Rouge, Bana États-Unis, Katamoto, Biberon, Caleçon Pété. Selon les nombreux rapports de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela, ces gangsters, leurs chefs de bande, portent des noms mystérieux tels que Esprit de mort, Roi de la forêt, Roi des bêtes, effacer le tableau, Satan. Quoique l'ampleur du phénomène ne soit plus forte aujourd'hui comme auparavant, sachons toutefois que ces jeunes gangsters sèment la terreur partout, même dans les camps militaires et opèrent en toute impunité, rapporte Robert Ilunga, patron de Les Amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme.
L'impunité vient aussi de la paupérisation de notre système judiciaire, notre population. Les magistrats, ils cherchent quoi manger, qu'est-ce qu'il va faire. Quand on arrête un Kuluna, vous verrez que si c'est un jeune brigand qu'on arrête, dont les membres de famille famille ne vient pas, on les relâche. On ne l'envoie pas facilement en prison. Après un temps, ses amis viennent, se cotisent, viennent même avec 20 dollars ou 50 dollars, ils donnent à un magistrat ou bien à un OPJ, on les relâche. Vous verrez que le garçon est sorti, il est transporté en gloire, maître Alenda, il passe devant même le commissariat de la police, ce qui affaiblissait la police.
Ce qui veut dire, il a gagné.
Oui, disons que notre maître, c'est un brave, il a gagné. Malgré tout ce que vous faites là, le maître est toujours là, pour dire qu'ils étaient couverts d'une certaine impunité. Mais quand il s'agit d'un jeune qu'on arrête, confondit même au Kuluna, quand on voit ce même membre de la famille responsable, vous verrez que les magistrats se précipitent pour envoyer les jeunes en prison, uniquement, pas tout simplement pour sanctionner les Kuluna, dans le but de percevoir la caution, que demander à la famille, vous voyez, il est en prison, si vous voulez bien demander la liberté provisoire, tout simplement la caution. Et la caution chez nous, c'est l'argent qu'on dépose au parquet. Quand on vous juge, on trouve que vous êtes innocent, on doit vous restituer. Vous avez déjà entendu chez nous, on restitue cet argent-là. On ne restitue pas.
Tantôt, ces jeunes gens sont utilisés par la police pour tracasserie. D'après ce témoignage du président de la Fondation Bill Clinton pour la paix en RDC, Emmanuel Kole.
Vous savez, lorsque vous approchez le magistrat, il vous dit que le phénomène Kuluna n'a pas une infraction. Ce n'est pas un motif pour arrêter des gens. À mon avis, nous tous, nous sommes soutenus pour des gens qui luttent pour amener la paix ou bien contre délinquants. On peut dire que c'est des gens-là, au lieu de parler de Kuluna, on dit délinquants. Contre toute forme de délinquance. Mais à mon avis, les polices congolaises utilisent les phénomènes Kuluna pour tracasser, pour arrêter des gens uniquement pour récupérer l'argent. Si j'ai fait pas le témoignage, moi-même également dans mon avenir, c'était venu entre 23 au 24 septembre. Ils avaient une oppression pour attraquer soi-disant le Kuluna, mais ils avaient arrêté tous les 10 gens qui sont pas Kuluna. Ils sont récupérés 50 000, 30 000. Les autres qui n'avaient pas l'argent, ils s'étaient amenés dans des décès de Kuluna. Donc, pour vous dire que c'est vrai que les polices utilisent les phénomènes Kuluna pour faire le commerce avec les phénomènes Kuluna. Et c'est ça qui est très déplorable. Et je demande à la police de faire leur travail tel qu'il est confié par les constitutions et les lois internationales existantes.
Notre organisation, les Amis de Nelson Mandela, comme plusieurs autres organisations, ont fustigé cette façon de se comporter des politiciens congolais qui cherchent le pouvoir en créant ou en soutenant des groupes de brigands. Ces mouvements sont vantés et même vénérés dans plusieurs chansons des musiciens congolais. Comme l'un des rôles des ONGDH est, entre autres, de jouer au système d'alerte, elles ont jadis et plusieurs fois dénoncé ces phénomènes en 2005, 2006 comme en 2011, indique une fois de plus Robert Ilunga.
Ces mêmes Kuluna-là, ils sont exploités, manipulés par les politiciens à l'approche des élections. Vous verrez, à l'approche des élections, même s'ils commettent des gaffes, les gens trouvent qu'ils vont perdre leur électorat, ils les arrêtent. Quand on les arrête, ce sont les grandes personnalités qui vont intervenir pour les libérer. Ailleurs, quand on sanctionne, ce n'est pas comme nous voyons sur la chaîne de télévision. Même certaines pratiques qu'on devrait décourager, d'autres jeunes s'inspirent tout simplement parce qu'ils ont vu à la télé, quelqu'un se promenait avec une machette, il a coupé les bras, il a amputé les bras de quelqu'un, il a blessé quelqu'un à la tête. Alors ce sont des infractions. Alors ces infractions-là sont sanctionnables. C'est du banditisme. Il y a l'extorsion, il y a les vols qualifiés. Parce que le vol est simple quand la personne détourne sans que les propriétaires puissent voir, sans violence, ça devient un vol simple. Mais les Kuluna là, ils commettent des vols qualifiés. Le fait simplement, leurs vols sont accompagnés de violences. La leçon que nous tirons par rapport à ça, notre justice, je vois aussi les agents de l'ordre, qui sont la police et les services de sécurité, ont tendance à être affaiblis par leur comportement eux-mêmes. Un procureur de Kalamu, nous les avons aidés à arrêter plusieurs Kuluna ici, qui s'appelaient des maîtres, des maréchals, de ceci. Nous suivons leurs dossiers. Mais les magistrats se justifient d'un côté. Ça aussi, c'est les droits. Un groupe de Kuluna que vous avez identifié, ils viennent vous agresser. Vous allez porter plainte, vous, la victime. Et on vous convoque pour comparaître avec l'accusé. Vous n'allez pas. Comment est-ce que le juge va qualifier aussi ça? Après un temps, il trouve que l'accusateur ne vient pas. Il lâche la personne. C'est pour cela que quelqu'un qui ne comprend pas ça, il va trouver qu'il y a un laisser-aller au niveau de la justice. Le laisser-aller commence d'abord par nous qui sommes victimes. On n'a pas cette culture-là de demander les dommages et intérêts, de demander la réparation. Ça aussi, c'est un phénomène qui favorise les Kuluna.
Est-ce qu'à ces jours, ce phénomène est toujours d'actualité ou bien on l'a maîtrisé?
On l'a pas maîtrisé. C'est devenu encore très grave, plus qu'avant. Parce que, comme j'ai dit, la seule maladie, le seul virus que nous avons, c'est l'impunité. Aujourd'hui, il y a des commandants, les officiers supérieurs qui sont sous sanction internationale à cause de leur comportement face aux traques des Kuluna qui étaient mal appliquées, en dehors des normes nationales et internationales. Personne, nous avons aidé les familles des soi-disant Kuluna à porter plainte contre certains généraux de la police. Jusqu'à aujourd'hui, un silence total de la part du procureur général de la République à qui nous avons adressé à des reprises lors de l'opération Likofi et aussi quand nous avons la répression de la police de 2015 quand on a découvert les fausses communes de de Maluku.
À tous ceux qui nous rejoignent en cours de diffusion, nous rappelons que nous parlons de la répression du phénomène Kuluna en droit congolais. Et pour justement évoquer cette répression, nous recevons à présent le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, Jean-Marie Massoud Mpia, qui évoque la loi.
La criminalité urbaine, communément appelée Kuluna, c'est un phénomène de société qui réveille l'attention de tout le monde et même qui révolte. Nul ne peut rester indifférent devant cette situation où nos enfants se réunissent avec des machettes pour s'en prendre à des paisibles citoyens. Mais votre question qui consiste à demander comment se fait-il que ces jeunes gens se retrouvent encore en liberté. Ils sont jugés s'ils sont coupables, ils sont condamnés et s'ils sont déclarés non coupables, ils sont acquittés.
Mais lorsqu'ils sont dénoncés dans des quartiers, ils sont en flagrant délit et la police met la main sur eux. Il y a des faits qui démontrent qu'ils ont commis des crimes. On les présente devant les juges, mais les juges les arrêtent bien sûr et les condamnent à des peines jugées dérisoires. Bien sûr qu'il y a aussi des innocents parmi eux.
Il faut considérer que la lutte contre la criminalité urbaine ne devrait pas être l'affaire seule des juges, ne devrait pas être l'affaire seule de la police. C'est un phénomène de société qui doit être combattu par tous. Qu'est-ce qu'on remarque? Et là, je vais répondre à votre préoccupation. Laquelle préoccupation est souvent exprimée par les médias, des fois même par la police congolaise. De temps en temps, je suis à la télévision quand elle dénonce que tel on l'a arrêté hier, on l'a présenté devant la justice et quelques temps après on l'a trouvé en liberté. Comment on peut expliquer ce cycle? Mais c'est très simple. Si cet effort pouvait arriver jusque devant les juges, peut-être qu'on parlerait autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Le criminel est arrêté et tout le monde est prêt à témoigner devant les micros du journaliste. Mais dès que l'officier de la police judiciaire clôture ses enquêtes et transmet le dossier auprès de l'officier du ministère public, on ne voit plus ces témoins-là. Tous disparaissent. Ici, la justice a affaire à une seule thèse, celle du criminel. On peut encourager dans l'avenir que systématiquement les cours et tribunaux s'exercent à faire des descentes sur les lieux. Et même alors, je peux vous assurer, en cas de descente, souvent la population ne coopère. Si nous souhaitons que les gens arrêtent de se plaindre qu'on a arrêté X hier, on l'a présenté devant les juges et demain on l'a trouvé en liberté, mais c'est parce que devant les juges, il y avait une seule thèse. Les juges n'ont pas à suivre ce qui s'est dit à la télévision, que tel a témoigné et il ne se présente pas devant lui et automatiquement, ce témoignage-là doit être pris au sérieux. Non, c'est un témoignage qui a été donné avec émotion et pas devant des autorités attitrées. Donc, ça devrait se faire un peu comme ça se fait ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme par exemple. Tout le monde est mis à contribution. Donc, devant la criminalité urbaine grandissante dans notre pays, c'est un problème. Il faut éduquer la population que lorsque un criminel a été attrapé en flagrant délit et que vous avez apporté votre témoignage devant les caméras des journalistes, soyez prêt à répondre lorsque l'officier du ministère public va vous inviter pour renforcer votre témoignage. Et de la même manière, devant les juges. Moi, je pense que c'est défaut de coopération avec la justice qui est à la base de ces phénomènes.
Est-ce que c'est le simple fait de ne pas collaborer avec la justice, que ces gens sont vite relâchés? Bien, quand le ministère public vous apporte le dossier, ça veut dire qu'il a réuni tous les éléments. Sinon, il aurait déjà relâché ces personnes à l'étape préjuridictionnelle.
Oui, d'abord, je vous dis que ce n'est pas l'unique raison. Ça, c'est le premier aspect de votre question. Ce n'est pas seulement pour ça qu'on déplore cette situation. De deux, vous dites que lorsque le ministère public présente un prévenu devant les juges, c'est qu'il a déjà réuni tous les éléments.
Oui.
Bien sûr. Mais n'oubliez pas que le ministère public est aussi parti au procès. Les juges doivent apprécier les arguments et du ministère public et ceux du prévenu et asseoir son intime conviction. Mais il peut arriver que les juges ne soient pas convaincus par les déclarations, les accusations du ministère public, faute de preuves. Et même à ce stade, le juge a besoin de témoins. Le ministère public a fait ses enquêtes. Et d'ailleurs, dans ce genre de cas, généralement, c'est des cas de procédure de flagrance. Et vous allez voir toutes les personnes qui ont fait les déclarations devant les journalistes en privé. Et lorsque le tribunal descend en flagrance, on ne voit personne. Et même quand ces personnes sont dans la foule, les personnes n'ont le courage de témoigner. Mais il y en a quand même qui témoignent. On ne peut pas dire que systématiquement, tous se sont acquittés, non?
Non.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Voilà, nous rappelons que nous recevons le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, Jean-Marie Massoudi Mpia, avec qui nous parlons de la répression du phénomène Kuluna, en jargon quinois, ou criminalité urbaine, ou banditisme, gangstérisme, selon la loi pénale congolaise. Que peuvent être les défis majeurs à relever en matière de la répression de ces phénomènes?
Défis majeurs à relever dans la répression de ces phénomènes? Oui, ici il faudra que la société toute entière s'arrange à agir en amont et en aval. Ici, comme juge, nous ne sommes pas très intéressés par la prévention de ces crimes. Nous sommes intéressés par sa répression. C'est comme ça que je ne parlerai pas l'aspect amont. L'aspect répression, je l'ai aussi dit bientôt, qu'il faut la participation, la coopération de tous. Et une grande fermeté aussi de la part des juges.
Des juges.
Oui, nous encourageons. Ne croyez pas que ces dénonciations nous laissent indifférents. Au contraire, nous demandent de mieux faire, d'être beaucoup plus attentifs et de ne condamner que le coupable. Et c'est avec preuve à l'appui.
Vous êtes le professionnel de la loi et c'est vous qui jugez. Est-ce qu'on peut dire aussi que la loi pénale en cette matière a des faiblesses? Il n'a que des points forts.
On a toujours dit « dura lex,
sed
lex ». On ne peut pas critiquer une loi, surtout un juge. Mais comme penseur, pour donner un point de vue personnel, je ne crois pas que dans ces pays, on a le problème de loi. Le problème,
c'est leur application.
Personnes qui doivent appliquer la loi. Je ne dis pas que toutes les lois sont parfaites, mais je crois que nous pouvons nous réjouir de celles que nous avons et nous pouvons obtenir notre bonheur en appliquant les lois que nous avons aujourd'hui.
Vous avez déploré l'absence de coopération des populations. C'est parmi les défis qu'il faut relever. Parlant des actes constitutifs de l'infraction, notamment l'organisation d'une bande qui est identifiée, dont on connaît le mode même d'opération. Est-ce que la loi pénale en matière de répression de ces phénomènes est aussi ignorée lorsqu'on doit tout le temps charger le juge que vous êtes?
On dit souvent ceci, le bon sens est la chose la mieux partagée. L'auteur ou le membre de cette bande n'ignore pas qu'il est en train d'agir contre la loi. Il ne peut pas prétendre que c'est par ignorance de la loi qu'on devient membre de telle ou de telle autre gang.
Comme on dit, d'ailleurs, nul n'ignore la loi.
D'ailleurs, comme preuve, ces gens-là agissent toujours la nuit ou en clandestinité, où ils prennent des précautions pour se sauver. Vous ne les verrez pas au grand jour sur les boulevards avec des machettes bien identifiées que non, ils appartiennent à telle écurie, sont en train d'opérer. Donc, ils savent dans leur fort intérieur qu'ils sont en train de violer la loi.
Un autre regard sur l'administration de la justice à l'endroit de ces présumés criminels avec Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
Kuluna, c'est une expression qui a pris origine ici à Kinshasa, qui veut tout simplement parler ou évoquer le cas d'un criminel, un récidiviste, c'est-à-dire de jeunes de la rue, qui n'ont pas d'activité généralement, ou qui en ont, mais qui se livrent assez régulièrement à des actes criminels comme des attaques contre des personnes, leurs biens, extorsion. On a vu qu'à un certain moment, d'autres ont utilisé même des armes blanches pour s'attaquer à leurs victimes. Donc, ce n'est pas en soi une infraction. Il n'y a pas d'infraction libellée à ce terme en tant que Kuluna. Donc, lorsque on pointe quelqu'un pour dire que c'est un Kuluna, je crois que c'est une façon de lui imputer tout simplement un fait. Même si cela a été fait, ceux qui sont chargés de l'interpeller doivent le faire en respectant aussi les droits de la défense de la personne accusée.
Et le fait de retrouver quelqu'un avec une machette, une arme blanche, peut être considéré comme une infraction?
Alors, le fait de détenir une machette en soi n'est pas une infraction parce qu'il n'y a pas d'infraction libellée en tant que telle, c'est-à-dire pour dire qu'il est interdit de détenir une machette. On peut détenir une machette parce qu'on voudrait aller soit au champ, qu'on a des travaux qui nécessitent au moins d'avoir une machette, ou qu'on venait de la sortir pour aller dans un chantier. Bref, il peut y avoir beaucoup de raisons qui peuvent justifier la détention d'une machette. Mais la police a toujours la latitude d'interpeller la personne détenant la machette pour connaître les raisons de cette détention de cette machette. Et surtout, s'il s'avère que la personne a cette machette pendant les heures tardives qui ne peuvent pas en justifier, à ce moment-là, ça peut être un indice sur lequel la police police peut se fonder pour d'abord garder la personne, essayer d'investiguer, savoir si de là où la personne venait, il n'y a pas eu de fait criminel commis à l'aide de cette machette. Ça, c'est une prérogative de la police.
Et après, la police elle-même se plaint de voir que cette personne qu'elle a détenue pendant au moins 48 heures et qu'elle a remise à la disposition du magistrat, cette personne se retrouve encore dans la rue pour opérer à nouveau. Est-ce que vous ne trouvez pas que la loi congolaise est un peu pauvre sur la répression de ces phénomènes?
Non, non, non. Je pense que ce n'est pas en soi Kulunda un phénomène peut-être entendu comme une criminalité urbaine, parce qu'à un moment donné, on a constaté dans la ville de Kinshasa qu'il y a eu beaucoup de bandes de jeunes constituées en association de malfaiteurs pour attenter contre les vies des citoyens, contre leurs objets. Et chaque fois qu'il y avait ce genre de cas, nous intervenions tout simplement pour rappeler à la police son obligation de les traiter avec dignité.
Donc de respecter ses droits.
En respectant leurs droits, notamment les droits à la défense, droit à être bien traité conformément à l'article 19 de la Constitution. C'est pas parce que on a trouvé la personne en train de voler ou en train d'agresser d'autres personnes qu'il faut immédiatement la soumettre à des mauvais traitements, à la torture. Ça, nous disons toujours que ce n'est pas la mission de la police. La police, c'est maîtriser la personne, recueillir, saisir tous les objets pouvant établir son intention de commettre l'infraction, de nuire aux personnes et à leurs biens, afin de transmettre au parquet qui, à son tour, va ficeler les dossiers et tenter d'obtenir sa condamnation.
On revient une fois de plus à Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton, qui nous parle des causes de ce phénomène et des solutions envisagées.
Plusieurs personnes sont victimes, même moi-même à l'époque, on m'avait enlevé plusieurs fois mon téléphone, passait demain. Mais vous savez que tous les phénomènes courants, on doit chercher les causes. Les causes sont quoi? Ce sont les sociales. Lorsque le social est amélioré, lorsque les jeunes gens qui ne font rien, si d'État il va occuper de cette région, je crois que le phénomène courant va finir. Vous savez, lorsque un enfant fait 2 ou 3 jours qu'il ne mange pas, il ne peut pas écouter son père, ni mère. Donc, le phénomène courant, c'est vrai, on doit lutter contre le phénomène courant, mais on doit aussi lutter contre les causes à laquelle a mis cette des gens là pour être courant. Les causes, ce sont le quoi? Le chômage, la pauvreté, le papa qui a fonctionné, qui recevait 90 000 francs, alors que les 90 000 francs ne parvenaient pas à payer les frais scolaires, ni même les frais de transport. Vous voyez, dans tout cela, lorsque le premier ministre dit qu'il va lutter contre la pauvreté, contre le chômage, je crois que la première chose, c'est l'augmentation des salaires, parce que si les parents de ces enfants là bien payés, si le papa est recevoir le bon salaire, je crois que les enfants ne savent pas être courant. Les enfants, ils doivent accepter, ils doivent recevoir le conseil de leurs parents. Mais si les parents ne parviennent pas à s'occuper des enfants, habillement, nourriture et soins médicaux, c'est ça pour ces enfants-là, pour être dans la rue, pour chercher quoi à manger. Mais pour chercher quoi à manger, au lieu de faire ça dans un manière pacifique, ils passent par une manière violence.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et devoir.
Droit et devoir.
Nous poursuivons notre sujet du jour sur la répression des phénomènes Kulunda en droit congolais avec nos invités. Maître Georges Kapiamba revient encore à la charge.
La stigmatisation surtout de certains jeunes, comme nous les connaissons dans nos villes actuellement, où il y a aussi un autre phénomène, c'est que certains parents qui ne sont pas capables d'entretenir leurs enfants les poussent à aller dans la rue pour mendier. Donc la mendicité forcée.
La mendicité forcée.
Ça, c'est un phénomène qui doit être combattu. Et l'État, les autorités ont l'obligation de prévenir. Ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas ces jeunes. Regardez aujourd'hui à Kinshasa, c'est presque dans tous les coins que nous retrouvons des petits-enfants qui sont encore des mineurs, mais qui sont en train de mendier par-ci par-là. Ces enfants vont grandir toujours dans la rue. Ils vont être au contact avec déjà les criminels, leurs aînés qui sont déjà dans la rue, qui recourent souvent à des petits vols, à des agressions contre des femmes, des enfants pour les ravir des biens, vendre des téléphones, ainsi vivre, et ces enfants vont être finalement retravaillés à la criminalité. Mais l'État doit agir de manière à faire enlever tous ces enfants dans la rue. Pourquoi ça traîne?
Ils envahissent le boulevard.
Le boulevard du 30 juin aujourd'hui, regardez les phénomènes auxquels nous vivons. Les enfants mineurs, même des filles, sont là et toutes les autorités passent par le boulevard du 30 juin. Pourquoi on n'agit pas? Mais c'est déjà là une bombe à retardement. Et enfin, il y a aussi le problème de l'école. l'école. Il faut que l'État respecte ses engagements pris dans le cadre de la Constitution. L'enseignement primaire et secondaire doivent être rendus gratuits de manière à faciliter, à contraindre ces enfants-là, ainsi que leurs parents, à aller à l'école. Mais vous savez, par exemple, que dans d'autres pays comme en Afrique du Sud, un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école est poursuivable devant même les cours et tribunaux. Il y a même des sanctions à lui administrer. Il faudrait qu'on change la manière de gérer cette question des enfants de la rue et que les parents qui sont reconnus comme réellement auteurs d'envoi de leurs enfants dans la rue pour mendier soient condamnés de manière publique pour que ça serve aussi une leçon pour tout le monde. Mais pour que ces parents amènent leurs enfants à l'école, l'État doit quand même préparer les minimums. L'État doit être en mesure de payer ses agents et fonctionnaires de l'État. L'État doit être en mesure d'assainir toutes les conditions socio-économiques pour que les gens aient des revenus qui peuvent leur permettre de prendre en charge la scolarité de leurs enfants. L'État doit être en mesure de supprimer les différents frais aujourd'hui qui alourdissent les minervales et surtout le fait de continuer à imposer aux parents de contribuer à la charge de l'éducation de leurs enfants, même dans des écoles de l'État aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé toutes ces questions, on ne pourra jamais prévenir le banditisme, la criminalité dans nos villes, pour ne pas dire dans notre pays.
Quelle solution durable pour endiguer ce phénomène? Le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, Jean-Marie Massoudi, formule quelques recommandations en guise de conclusion.
J'inviterai donc la population, avec le même élan, lorsqu'ils viennent témoigner au micro des journalistes, devant l'officier de police judiciaire, qu'ils soient prêts aussi à témoigner devant les juges. De telle sorte, les membres de toutes ces bandes seront mis devant leurs responsabilités. À défaut, nous risquons de continuer à déplorer toujours, on l'a arrêté hier, et demain on l'a trouvé à la rue, tout simplement parce qu'il n'y a pas de témoins. Il faut que les gens se réveillent, qu'ils considèrent comme un devoir civique, un devoir moral, de venir témoigner contre X ou Y membres de la bande. Et cela en toute justice et en toute vérité. Ici, je peux donner mon point de vue comme citoyen du monde, citoyen de ce pays. La criminalité urbaine, on peut la combattre sans exiger beaucoup de moyens, mais un problème de sensibilisation. Si aujourd'hui, par exemple, nos bourgmestres imposent à chaque habitant de chaque parcelle de mettre la lumière devant sa maison, parce que généralement, ces gens profitent de l'obscurité pour opérer, mais chaque commune s'est dit, chacun doit éclairer devant sa maison. Est-ce que vous voyez ces jeunes gens se cacher derrière sous les arbres pour attaquer les gens? Et ça, on peut le faire immédiatement. Bon, généralement, les gens disent qu'il n'y a pas de courant, c'est vrai, mais ce n'est pas tous les jours qu'il n'y a pas de courant. Donc ici, les bourgmestres peuvent se réveiller et au besoin même créer une équipe, même une sorte de police. La nuit, ils peuvent passer devant chaque maison. Vous voyez, il y a du courant à l'intérieur, mais pourquoi vous n'éclairez pas l'extérieur? Et vous ne le faites pas, la commune vous impose les amendes et dans ces amendes, ils prélèvent l'argent nécessaire pour payer les ampoules et installent les ampoules devant votre maison. Je crois que de cette façon-là, on peut écarter ces dangers. Si, d'expérience, vous éclairez votre avenir, vous n'aurez plus de Kuluna. Donc vous voulez chasser les Kuluna éclairés devant vos maisons.
Voilà, nous rappelons à tous ceux qui nous prennent en cours des diffusions que nous parlions de la répression du phénomène Kuluna, en jargon quinois, ou criminalité urbaine, et nous recevions à ce sujet le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, Jean-Marie Massoudi Pia, à qui nous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ce magazine qui s'est penché sur la répression du phénomène Kuluna en droit congolais tire ainsi à sa fin. On retient que ce phénomène n'est pas réprimé dans le code pénal congolais qui ne reconnaît pas les Kuluna. Le phénomène en soi n'est pas une infraction en droit congolais. Il faut témoigner devant la justice des faits commis qui sont constitutifs d'actes d'infraction. Coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki, Droits et Devoirs vous a été présenté par Jeff Ngoyi Mulonda. Merci de l'avoir suivi et agréables conditions d'écoute de nos programmes.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.